Et la question posée était la suivante. Le résultat des élections municipales turques, selon vous, oui ou non, affaiblit-elle ou affaiblit-il ce résultat? Le président Recep Tayyip Erdogan, oui ou non? Sur les réseaux sociaux, vous avez été nombreux à vous exprimer. Sur Twitter, 100% de oui. Sur Insta, vous êtes une large majorité de 79% pour qui ont répondu oui et 21% non forcément. Et sur Facebook, 69% d'entre vous pensent que ce résultat des élections municipales turques vont affaiblir le président Erdogan. On va voir ce qu'en pense notre invité, Alexandre Delval. Il est géopolitologue, spécialiste de la Turquie et il répond à la question du jour au micro de Blaise van der Linden.
Alexandre Delval, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Vous êtes géopolitologue, spécialiste des relations entre l'Europe et la Turquie. Alors, nous avons posé dans la chronique de la question du jour à nos auditeurs la question suivante. Les résultats des élections municipales turques affaiblit-il le président Erdogan? Alors, qu'en pensez-vous, Alexandre Delval?
Eh bien, je pense que ces élections affaiblissent, bien entendu, Erdogan et en fait son parti en général, et pas que Erdogan. Et donc ça, c'est très intéressant de constater que malgré tous ces revirements très opportunistes, son alliance avec les nationalistes d'extrême droite, le MHP, qui jadis était assez laïque, qui sont devenus un peu plus islamistes, mais qui ont une idéologie très différente, ces différents revirements dans tous les bords, parfois il instrumentalise Kemal Atatürk, parfois il le critique indirectement, malgré tous ces revirements électoraux qui lui ont permis de tenir, là, il est arrivé au bout et ça ne marche plus. Et c'est un revers effectivement important puisque le maire d'Istanbul est très charismatique. Et là, il est en pole position très favorable pour les élections législatives et surtout présidentielles de 2028.
Vous mentionnez le maire d'Istanbul, mais quel est le réel pouvoir des maires en Turquie?
Alors, les maires ont quand même un pouvoir local important, je dirais... pas moindre par rapport à la France, hein. C'est comparable, c'est un pays qui n'est pas fédéral, donc il y a une certaine centralisation, mais je dirais que les mairies en Turquie ont autant de pouvoir que les mairies en France, c'est quand même assez important au niveau local, au niveau même de la liberté d'expression, on voit très très bien la différence entre Istanbul, où vous pouvez croiser des militants LGBT et même des transsexuels sur la place Taksim, et des militants écologistes et gauchistes avec des librairies qui restent très pluralistes. Vous n'avez pas la même chose dans les bastions AKP au cœur de l'Anatolie. Donc il y a quand même de facto, je ne sais pas si c'est juridique, mais de facto, les villes comme Izmir ou Istanbul n'ont pas uniquement un pouvoir de décentralisation, mais il y a toute une masse d'habitants qui n'acceptent pas de suivre l'islamisme. Si vous regardez la carte électorale, tout l'Ouest pratiquement est rouge, c'est-à-dire la couleur du CHP, et donc il y a le pouvoir quand même tout de même important des villes, mais il y a aussi la masse démographique, vous savez, la loi du nombre. Quand il y a une masse assez européanisée, laïcisée, occidentalisée, c'est très très difficile d'imposer à tout le monde un rigorisme islamiste. Par contre, dans les campagnes reculées d'Anatolie ou les bastions urbains de la nouvelle bourgeoisie islamique de province, c'est beaucoup plus facile parce que naturellement, il y a déjà une islamisation. Donc, de même qu'il y a des endroits qui sont naturellement réislamisés, ou qui ont toujours été très conservateurs, dans l'Ouest, là où il y a les fiefs du parti kémaliste, le CHP, donc le CHP, Parti républicain du peuple, il y a une réelle différence de coutumes, de vie, de façon d'être. Et vous le sentez quand vous allez à Istanbul, surtout à Taksim et Beyoğlu et le cœur historique européen d'Istanbul, c'est extrêmement net.
Oui, Recep Tayyip Erdogan, lui, joue quand même un jeu assez dangereux avec la Russie et l'Iran, aussi bien dans les guerres en Ukraine qu'à Gaza. L'Europe pourrait-elle lui imposer des sanctions?
Alors, ça me paraît difficile d'imposer des sanctions. C'est ce que voudraient les Américains. Les Américains voudraient des sanctions secondaires qui punissent non pas uniquement la Russie, mais aussi les grands pays qui l'aident à contourner les sanctions. Mais ça va être très difficile de sanctionner l'Inde, la Chine, la Turquie, tous les pays d'Asie centrale, l'Arabie saoudite, les Émirats, la plupart des pays d'Afrique et l'Amérique latine. Ce serait presque impossible. 80% de l'humanité contourne les sanctions ou s'en fiche ou ne les applique pas. Donc c'est presque impossible. Et le jeu dangereux d'Erdogan, je dirais que par rapport à l'Iran et à la Russie, il y a plutôt un jeu d'équilibre d'Erdogan, parce qu'Erdogan arme les Ukrainiens. Erdogan a énormément accordé d'importance au soutien aux Ukrainiens. Depuis le début, ces drones ont été très importants avec les satellites de Monsieur Elon Musk. Les drones turcs ont été fondamentaux dans la résistance turque du début de l'invasion russe qui a échoué. Au moins, ça a joué au moins autant que le soutien américain. Donc, plus qu'un jeu dangereux, Erdogan est malin. Il mène une politique d'équilibre. On contourne les sanctions avec la Russie pour tout simplement avoir un gain économique, parce que c'est quand même un très grand partenaire, la Russie, pour la Turquie. Il ne peut pas se permettre de couper les ponts économiques avec ce pays. Mais en même temps, la Turquie aide l'Ukraine et elle craint que l'Ukraine soit privée de sa façade maritime. Elle ne veut pas que ça devienne un lac russe. Et donc, je dirais que la Turquie joue un jeu intelligent et équilibré qui, à mon avis, serait presque le même avec le parti kémaliste qui arrive au pouvoir. Par exemple, pour la Syrie, le parti kémaliste qui pourrait arriver au pouvoir en 2028 est encore plus d'accord avec la respectabilisation de Bachar al-Assad, avec qui il y a toujours eu des liens, hein, les kémalistes et les laïcs turcs, par laïcité, ont toujours été proches des nationalistes arabes de la Syrie, avec qui ils partagent le côté alaouite. Vous savez, les alaouites en Syrie sont très proches des alévis, et les alévis, c'est une minorité très laïque, issue de l'islam chiite, mais qui n'a plus rien à voir avec l'islam. C'était la fameuse religion de l'ancien candidat du CHP au présidentiel de mai 23. Donc, si vous voulez, le CHP, d'ailleurs, est encore moins atlantiste, plutôt encore moins pro-américain que Erdogan. Erdogan est assez apprécié par l'Amérique. Hein. Il a des très bonnes relations avec la droite, les Trumpistes, mais pas trop mauvaises avec Biden. Donc, ça ne sera pas mieux pour l'Occident, les soutiens de l'Occident, les soutiens de l'Ukraine, les soutiens, tout ce qu'on appelle les occidentalistes et ceux qui veulent faire barrage à l'Iran. Le CHP ne fera pas plus barrage à l'Iran que Erdogan. Erdogan, avec l'Iran, a un jeu trouble, à la fois rival et partenaire. C'est un pays qui pratique le pragmatisme absolu et ce qui se passe aujourd'hui en Turquie est plus lié à la politique intérieure qu'extérieure. La politique extérieure est relativement stable. L'ancien chef des services secrets turc, qui est un kémaliste nationaliste, est devenu le ministre des Affaires étrangères d'Erdogan. Vous voyez, il y a quand même une certaine constante. L'État profond a une politique étrangère de multi-alignement, un peu comme l'Inde, qui ne cessera pas avec la fin d'Erdogan. Si les Occidentaux rêvent en pensant que les kémalistes vont être alignés sur l'Occident, mais ils se trompent grandement.
Pour finir, la semaine dernière, 150 personnes ont été arrêtées pour lien avec l'État islamique en Turquie. Où en est-on avec le terrorisme dans le pays ?
Alors, premièrement, l'État islamique a eu des jeux troubles avec la Turquie, et la Turquie, notamment les services secrets turcs, dont vient Monsieur Fidan, le ministre des Affaires étrangères d'Erdogan, un moment pour contrer les Kurdes en Syrie, la Turquie a joué un jeu trouble en aidant Daesh, mais c'était momentané. Ensuite, quand il y a eu un deal avec Trump pour vendre aux Américains le chef de Daesh qui se cachait en zone surveillée par les Turcs, il y a eu un revirement et Daesh a perpétré plusieurs attentats stupidement attribués aux Kurdes. Et moi, j'y étais d'ailleurs quand il y a eu l'attentat du 13 novembre 2023 à Istanbul, près de la place Taksim. Et c'était vraiment éclair que c'était Daesh. Mais comme Poutine accuse les Occidentaux de l'attentat de Daesh, eh bien les Turcs accusent souvent les Kurdes. Mais on sait qu'il y a un énorme contentieux maintenant entre Daesh et le pouvoir d'Erdogan, qui fait des revirements constants. Et donc, il y a un vrai danger Daesh en Turquie, y compris contre le pouvoir islamiste, qui n'est pas si islamiste que ça. Parce qu'en fait, à part le voile islamique, Erdogan n'a pas vraiment réislamisé la Turquie. Il a répondu à l'appel des conservateurs qui ont toujours été là. Il n'a pas appliqué la charia. Il n'a même pas rompu vraiment les liens avec Israël. Il n'y a pas eu une abolition des accords des années 90. Et donc, si vous voulez, Daesh est conscient que tout ça, c'est du faux islamisme. C'est de l'islamisme populiste de façade émotionnelle, mais pas vraiment dans les faits. Et donc, deuxième élément, les attentats de Russie, de Moscou, ont montré que plusieurs prédicateurs russes de Daesh vivent en Syrie, et de nombreux opposants islamistes qui ont lutté contre Bachar al-Assad, frères musulmans, turkmènes ou frères musulmans, mais aussi des militants djihadistes anciennement de Daesh et de Al-Qaïda. Il y a énormément d'islamistes réfugiés en Turquie, dont des islamistes russophones qui ont combattu le Bachar al-Assad, l'Iran et la Russie lorsque la Russie, l'Iran et Bachar al-Assad étaient alliés contre les djihadistes. Il y a beaucoup de djihadistes en Syrie, énormément, beaucoup de Daesh ou d'Al-Qaïda qui ont changé de nom mais qui sont plus ou moins faussement repentis. Il y a même des prédicateurs islamistes russophones qui recrutent des djihadistes en Russie qui sont à l'origine des attentats de 2017 dans le métro de Saint-Pétersbourg. Les Russes pensent que certains des prédicateurs qui ont pré-fanatisé avant le passage à l'acte, on pense que deux d'entre eux notamment sont à Istanbul et en Turquie, donc si vous, et ou à la frontière syrienne. Donc la Russie a vraiment tapé sur la table, elle l'a pas montré. Ils ont dit qu'ils allaient coopérer entre eux, mais secrètement, enfin discrètement, Poutine a vraiment demandé à Erdogan de faire le ménage. Et depuis 2023, on est à 1300 arrestations d'islamistes plus ou moins djihadistes ou très, très fanatisés en Turquie. Et rien que ces jours-ci, 150 arrestations, 147, on voit bien que non seulement la Turquie a peur de Daesh, mais la Turquie subit des pressions de son partenaire plus ou moins ennemi, plus ou moins ami, qui lui dit on n'est pas d'accord sur beaucoup de dossiers, mais on a un pacte de non-agression réciproque, de partage d'influence. Maintenant, il faut arrêter d'héberger des gens qui appellent au djihad en Russie, ce qui est quand même élémentaire. Et donc, ce n'est pas pour rien que le même jour de l'attentat, le lendemain, 147 arrestations, même s'il y en avait déjà depuis 2023, on sait très bien qu'il n'y a pas de hasard dans ce calendrier. Donc voilà, les revirements multiples d'Erdogan font que Daesh, qui à un moment a profité de la Turquie qui avait les mêmes ennemis kurdes en Syrie. Aujourd'hui, on n'est plus dans la même configuration. Localement, les djihadistes pro-turcs dans le nord-ouest de la Syrie continuent de tuer des Kurdes et d'être un danger pour les Kurdes. Mais Daesh, maintenant, s'est retourné contre la Turquie, qu'elle ne voit plus vraiment comme un allié de circonstance. Et donc, elle redevient un ennemi existentiel pour la Turquie, même si la Turquie considère que son ennemi principal demeure les Kurdes séparatistes.
Alexandre Delval, je rappelle que vous êtes géopolitologue, spécialiste des relations entre l'Europe et la Turquie, de l'islamisme et du terrorisme islamique. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.